pays, j'ai fait ma première chanson à 4 ans et j'ai toujours su qu'un jour je serai reconnu. Tais-toi et chante, chante, tais-toi et chante, 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 chante. Brassens, Brel et Barbara sont passés de vie à trépas. D'autres encore les ont rejoints. Moi-même, je ne me sens pas très bien. Avant de partir, je me dis comme ça. Tais-toi et chante, chante, tais-toi et chante, 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 chante. Tais-toi et chante, chante, tais-toi et chante, chante, chante.
Moi, j'aimais beaucoup entendre la radio.
Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Alors, je m'appelle Basile De Bure, je suis journaliste, journaliste indépendant. C'est-à-dire que je ne travaille pas que pour un seul journal. Mais aujourd'hui, je suis venu pour vous parler du Petit Quotidien, qui est donc le journal pour lequel je travaille.
Depuis combien de temps vous êtes journaliste ?
Alors moi, je suis journaliste depuis 2006. J'avais 18 ans quand j'ai écrit mon premier article. Vous pourrez faire le calcul pour deviner mon âge. Et je suis au Petit Quotidien depuis 2015. Ça fait 11 ans que je travaille pour le Petit Quotidien.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Alors, pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'adore écrire. Moi, ma matière préférée quand j'étais à l'école, c'était les rédactions. J'adorais écrire des histoires et donc j'avais envie de trouver un métier où je pouvais continuer à écrire. L'autre raison, c'est aussi parce que je suis très curieux. J'adore découvrir des choses et découvrir des personnes. Ce qui est génial quand on est journaliste, c'est que c'est tous les jours différent et on rencontre plein de personnes. Et la dernière raison, c'est aussi important, c'est que moi, mes deux parents, ils sont journalistes. Donc depuis que je suis tout petit, j'ai découvert ce métier. Et en les voyant, ça m'a donné envie de le faire aussi.
Est-ce que vous sentez bien dans votre travail ?
Qu'aimez-vous faire le plus dans votre métier ?
Oui, je me sens très bien. J'adore mon métier. Journaliste, c'est un métier passionnant. Alors moi, j'adore les interviews. Vous vous rappelez, c'est quand on pose des questions à quelqu'un pour découvrir sa vie ou pour apprendre des choses. Moi, j'adore rencontrer les gens. Donc, quand je rencontre quelqu'un et que je peux lui poser des questions, je trouve que c'est toujours super et on a toujours plein de surprises.
Que trouvez-vous de difficile dans votre métier ?
Alors, il faut tous les jours trouver des nouvelles idées, des nouveaux sujets sur lesquels écrire. Et ça demande beaucoup de travail quand même. Ce qui est difficile, c'est de se reposer, de s'arrêter. Moi, je réfléchis toujours à mes articles. Quand je rentre chez moi, parfois, j'ai envie d'écrire jusqu'à tard dans la nuit. Donc, il faut réussir à couper, à penser à autre chose. Parce que quelquefois, quand on travaille sur un sujet, on y pense tout le temps.
Que faut-il apprendre à l'école pour devenir journaliste ?
Alors c'est important de bien savoir écrire, donc je dirais que les cours de français c'est quand même utile, mais ce qui est bien avec ce métier c'est que tout est utile en fait. L'histoire, quoi d'autre, les cours d'anglais pour apprendre à parler d'autres langues, les sciences, en fait tout vient nourrir ce métier. Moi je dirais que le plus important c'est d'être curieux, de s'intéresser à tout, et c'est comme ça qu'on devient un bon journaliste.
Comment vous avez appris à bien parler anglais ?
En fait l'anglais à l'école j'étais pas très fort, mais j'ai vraiment appris en voyageant là-bas. Quand on va dans les autres pays et que du coup on est un peu obligé de parler pour se faire comprendre, et ben petit à petit on se met à apprendre la langue. Donc moi j'y suis allé plusieurs fois, j'ai eu cette chance. Au début j'étais pas très fort et puis au fur et à mesure, à force de parler avec les gens, de les écouter, de les comprendre, et ben ça m'a permis de bien maîtriser cette langue.
Quelle est votre matière préférée à l'école ?
Alors j'aimais beaucoup le français parce que j'adorais les rédactions, et sinon je dirais l'histoire. Moi j'adorais l'histoire, étudier les grands événements, je trouvais que c'était passionnant.
Dans quelle école vas-tu ?
Alors moi j'ai grandi dans le centre de Paris, dans le 5e arrondissement. Donc j'étais dans une école là-bas, j'étais dans un collège qui s'appelait Pierre Alvizet. Je me suis mis à écrire mes articles tout de suite après mon bac. À partir de 18 ans, j'ai essayé de devenir journaliste et de vendre mes articles. En général, quand on devient journaliste, on peut faire une école. Il y a des très bonnes écoles de journalistes, ça dure 3 ans. Mais on peut devenir journaliste en passant par plein de cursus différents. Et aujourd'hui, je continue à aller dans des écoles puisque je vais parler de mon métier. Et ça, c'est super parce que ça peut être partout en France. Dans des villes, dans des villages, à la campagne, vraiment partout. Et ça, c'est vraiment passionnant.
Avez-vous un autre travail ?
Plus maintenant. Au début de ma carrière, j'étais pas que journaliste parce que c'est pas toujours facile de gagner beaucoup d'argent. Donc quand j'étais un jeune journaliste, je travaillais toujours à côté. J'étais vendeur, j'ai été livreur de sushis, j'ai été hôte d'accueil, j'ai fait plein de métiers comme ça. Mais maintenant, j'arrive à vivre de mon métier, donc je suis que journaliste. Et aussi, j'écris des livres. J'ai écrit un livre sur le foot, sur les ados qui rêvent de devenir footballeurs professionnels. J'ai pas mal écrit sur le sport, mais j'ai aussi écrit, par exemple, moi je travaille beaucoup sur la justice. J'ai écrit un livre sur la prison, où j'ai rencontré des personnes qui avaient été condamnées par la justice pour suivre un petit peu leur trajectoire, comprendre comment ça se passe. Donc moi, mes deux sujets de prédilection, c'est le sport et la justice. Très différents.
Est-ce que vos parents vous ont montré quelque chose sur le petit quotidien ?
Alors oui, moi je le lisais quand j'étais petit. Le petit quotidien, il existe depuis 1995. C'est-à-dire que quand j'avais votre âge, ça existait déjà. Donc moi, je le lisais à l'école. Donc ce journal, ouais, je l'ai découvert. Enfin, ma maman, elle me le faisait lire parfois. Donc absolument. J'ai pu le découvrir, tu vois, depuis mon plus jeune âge.
Est-ce que vous êtes journaliste de génération en génération ?
Alors oui, c'est mon cas. Pas de génération en génération, mais mes parents en tout cas, ils étaient tous les deux journalistes, et même ma grande sœur aussi, elle est journaliste. Il y en a beaucoup dans la famille, et c'est souvent comme ça les journalistes, hein. Il y a souvent des familles de journalistes, mais en France en général, il y a ce qu'on appelle beaucoup de reproduction sociale. C'est-à-dire qu'on a souvent des enfants qui font le même métier que leurs parents, et c'est vrai que c'est mon cas, et ça m'a donné vachement envie de devenir journaliste, parce que ce qu'ils faisaient, ça avait l'air passionnant, donc j'avais envie de faire pareil.
Quels sont vos jours et horaires de travail ?
Alors moi, je travaille du lundi au vendredi. Je me repose le week-end quand même, mais j'ai certains collègues qui travaillent le week-end aussi. Et je travaille, je commence à travailler à peu près vers 9h et je m'arrête vers 18h le soir. Mais j'ai des collègues qui travaillent plus tard, qui peuvent faire la maquette jusqu'à 21h. Et à l'imprimerie, il y en a même qui travaillent la nuit.
Est-ce que c'est bien payé d'être journaliste ?
La question qui tue, je dirais bof. En fait, il faut savoir que les journalistes, ils ont des salaires très différents. Il y a plein de différents journalistes en France, il y en a qui gagnent très bien leur vie. Par exemple, les présentateurs que vous voyez à la télé, on a parlé du JT de TF1 tout à l'heure, le présentateur du JT de TF1, il gagne beaucoup d'argent. Moi, je suis un journaliste indépendant qui fait des reportages et des interviews. Je gagne pas forcément beaucoup d'argent. C'est surtout dur au début. Quand on commence sa carrière de journaliste, c'est un peu difficile. Aujourd'hui ça va, mais je peux vous donner un chiffre. Moi je pense que je gagne autour de 2 000 € par mois, ce qui est très bien, moi je suis très content. C'est un salaire qui est très chouette, mais quand on est adulte et qu'on a plein de choses à payer, c'est pas toujours beaucoup.
Est-ce que vous explorez le monde ?
Alors ça m'est arrivé, oui, j'ai fait des reportages dans d'autres pays. Moi je suis beaucoup allé aux États-Unis parce que je parle bien anglais, donc ça me permettait d'aller interviewer les gens là-bas. Le plus grand voyage que j'ai fait pour mon travail, c'était pendant 3 mois. Je suis parti aux États-Unis 3 mois, j'ai voyagé dans tout le pays, et c'était au moment de l'élection d'un président. Avant Donald Trump, il y avait un président qui s'appelait Barack Obama. C'était le premier président noir aux États-Unis. Et je posais des questions aux Américains pour comprendre pourquoi ils avaient voté pour lui, pourquoi ils l'aimaient bien, ou alors pourquoi ils ne l'aimaient pas. Et je m'étais promené pendant 3 mois dans tout le pays. J'étais allé dans plein de villes, et c'était passionnant. Aujourd'hui, je travaille plutôt en France. Je fais moins de reportages à l'étranger.
Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes ravis de donner aujourd'hui la parole aux mamans qui se sont inscrites aux ateliers OEPRE cette année.
On vous avoue qu'on a eu du mal à retenir ce que signifient les lettres OEPRE, mais maintenant, c'est chose faite.
O pour ouvrir.
E pour école.
P pour parents.
R pour réussite.
E pour enfants.
Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants.
Nous allons vous confier un secret. Cette interview est celle que nous avons préféré préparer cette année.
Vous saviez que même les mamans vont à l'école ?
Reportage dans mon cartable.
Pour moi, apprendre le français est très important pour vivre, communiquer.
Bah, j'aimerais bien de rencontrer les gens, en faire des nouvelles rencontres, partager nos cultures. Voilà.
Comment se déroule un atelier ? Avez-vous des pauses, une récréation ?
L'atelier de français se déroule dans une ambiance agréable. La professeure présente les activités et nous participons en groupe. Nous faisons des écritures, du lire et de conversation. De temps en temps, on prend du thé, on partage un moment de nos cultures.
Allez, nous ramène du thé, du café.
Oui, je suis motivée.
Bon. C'est plus la même question là.
C'est quelle question ?
Ça monte la motivation.
Êtes-vous obligé de suivre les cours toute l'année ?
En tout cas, pour moi, c'est obligé parce que je voulais bien apprendre à lire et écrire. Donc, pour moi, c'est obligé. Mais quand j'ai le rendez-vous, je suis obligé de demander à ma maîtresse pour dire que, bon, aujourd'hui, je ne pourrais pas venir. Voilà. Sinon, c'est obligé que je vienne. Voilà. Pour l'année.
Dans ta tête.
Dans ma tête, c'est obligé.
Est-ce que vous apprenez le français tous les jours ?
Deux fois par semaine. Avant, 4 heures par semaine. Et maintenant que 2 heures par semaine. Mardi, de 14h30 à 16h. Et vendredi, la même chose. De 14h30 à 16h.
Avez-vous besoin de matériel scolaire ? Est-il fourni ?
Oui, on a besoin. Oui, on prend les cahiers avec nous. La trousse, les crayons. Vous les dosez.
Oui. Okay. Avez-vous vu des évolutions au niveau de votre français ?
Bien sûr, Mélanie aide-moi pour français langue. Moi déjà à passer à DELF exam niveau ado. Merci Mélanie.
C'est vrai, c'était l'année dernière.
Oui, c'est pas comme la première année. Maintenant, ça va, parle un petit peu. Je comprends aussi.
Oui, vraiment, je suis fière de Mélanie parce que depuis quand je suis arrivée ici en France, c'est avec elle je suis toujours. Donc, tout ce qu'on fait comme papier, écrit et tout, c'est elle qui m'a appris tout. Donc, je suis fière. En tout cas, j'ai progressé un peu. Pas trop, mais un peu.
Oui, bien sûr, du début de l'année jusqu'à la fin d'année, ça améliorait bien. Je comprends déjà, il y a plusieurs mots que j'ai pas compris avant. Maintenant, je comprends. Et je suis fière de moi et de Mélanie. C'est excellent professeur. Franchement. Et je lui ai dit ça avant. Je lui ai dit pourquoi tu travailles pas avec les enfants.
Alors, les mamans que j'ai à Ivry, je les ai depuis presque 2 ans, donc il y a eu des nouvelles arrivées. Mais bien sûr, on constate plusieurs progrès, tant que ce soit dans l'écriture ou la lecture. Certaines sont arrivées non lectrices, et aujourd'hui, elles arrivent à lire, donc c'est quand même super. À écrire ce qu'elles pensent et ce qu'elles veulent, ça pareil, c'est très important. Et après, dans tous les types, tous les points du français, hein, que ce soit la grammaire, la conjugaison, l'orthographe, la phonétique, donc ça en français pur et dur. Et ensuite, je le vois dans quand on discute. Elles sont pour moi presque francophones, vu qu'on se comprend. Donc j'ai aucun doute sur le fait qu'elles puissent très bien s'en sortir à l'extérieur de l'école.
Depuis combien de temps exercez-vous ce métier ?
Alors, moi, je suis enseignante de français depuis 4 ans, à peu près, et je travaille avec les adultes, principalement.
Appréciez-vous de donner des cours aux mamans ? Est-ce plus difficile de donner des cours à des mamans ou à des enfants ?
Alors oui, j'adore donner cours à des mamans. Des fois, il y a des papas aussi. Ça arrive qu'il y ait des papas. C'est pas plus difficile que donner... je pense que que ce soit avec des adultes ou avec des enfants, la difficulté, c'est la même. En tout cas, c'est différent. On n'a pas la même approche avec les enfants qu'avec les adultes. Et on n'apprend pas de la même manière. Et on n'apprend non plus pas les mêmes choses. Les mamans ont des besoins que du coup, les enfants n'ont pas. Et on essaye de leur apprendre ce dont elles ont besoin à l'heure actuelle. Et du coup, le cours d'OEPRE, c'est surtout pour qu'elles puissent accompagner leurs enfants dans leur scolarité et dans leur vie quotidienne aussi. Et surtout d'imaginer un avenir en France avec leur famille.
Donnez-vous aussi des cours aux enfants ou seulement aux mamans ?
Alors, je donne des cours avec des enfants. Un programme qui s'appelle SFLS, donc c'est du soutien de français langue seconde. 3 heures par semaine, mais sinon principalement c'est qu'avec des adultes. Donc qu'avec des mamans et quelques papas, je crois que j'ai 3-4 papas à la semaine. Sinon le reste c'est que des mamans.
Est-ce que vos enfants savent que vous apprenez le français ? Sont-ils fiers de vous ?
Oui, elle est contente parce que maintenant... je comprends français et apprendre la langue, oui. Oui,
oui, elle est contente, mes enfants. Et elle comprend maintenant comment on parle en français.
Ah oui, mes enfants, ils sont très, 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 très contents parce que avant, bon, je ne savais pas lire quelque chose, je ne savais même pas lire, même un petit truc. Maintenant, là, j'arrive à lire un peu. Donc, ils sont très contents de moi. En tout cas, même mon petit-fils, au début, il s'est moqué. Maintenant, ça va. Il ne se moque plus. Moi, mais je me moque de lui.
Voilà. Ça y est. Êtes-vous fière d'accompagner les mamans pour leur réussite de leur enfant ?
Ah oui, je suis très, très fière. Et à chaque fois que je vois leur évolution, je me dis, bon, on a ensemble fait du bon boulot. Souvent, elles me disent, mais Annie, c'est grâce à toi. Non, ce n'est pas que grâce à moi. C'est grâce aussi au fait que vous soyez attentive et motivée. Et si en plus ça peut aider vos enfants à réussir, c'est encore mieux.
Passez-vous des bons moments pendant les cours ? Vous arrive-t-il de partager des repas toutes ensemble ?
Oui, on passe des moments ensemble, on partage. On discute, on raconte.
On discute ensemble, on raconte des histoires et même Mélanie nous aide. On fait les recherches sur l'ordinateur par rapport à chacun, son pays, sa culture, le repas, qu'est-ce qu'il mange comme repas et tout ça. Et voilà.
Je suis toujours avec Mélanie, elle nous fait sortir, on s'en va boire un petit café, on partage ensemble, on rigole, je joue la comédie. En tout cas, ils sont fiers de moi et ils sont heureux. Moi aussi, je suis contente. Voilà.
Ça nous est déjà arrivé de... Et vous le savez, on se retrouve donc à 14h15 et en fait, on commence le cours, ce que j'ai prévu, l'atelier à 15h. Parce qu'en fait, pendant 45 minutes, on a discuté de... Bah, d'une anecdote qui s'est passée dans votre semaine ou parce qu'elles me racontent quelque chose sur leur pays, sur leur famille. Donc ça fait partie aussi des ateliers d'OEPRE. Du coup, c'est comme si avant de faire cours, on faisait un petit atelier de conversation. Et souvent, on arrive à avoir de très bons résultats avec ce genre de conversation. C'est complémentaire. Et du coup, on partage aussi plein de bons moments. Parce qu'elles sont super mignonnes, elles ramènent des petites choses à grignoter, à boire. Donc, c'est nos temps de pause. Ça peut durer 5-10 minutes, mais on arrive toujours à sortir un petit peu du cours de français. Et on discute en français de leur vie, de leur tradition, de leur culture, de leur famille. Ayette et Rabia, elles se connaissent très bien. Bon, là, il manque des mamans aujourd'hui, mais elles sont toutes très copines aussi.
Elle aussi, celle-ci, je l'ai connue.
Et elles partagent aussi des moments hors école, hein, parce que je vous ai déjà croisées au marché ensemble, je vous ai croisées à la fête d'Ivry ensemble l'année dernière. Donc, c'est super.
Est-ce que les mamans sont toujours attentives en cours?
Oui, ça va. Elles sont toujours attentives. Disons qu'elles se déconcentrent pas trop, mais ça peut arriver quand même. Des fois, elles rient beaucoup. Je comprends pas tout parce qu'elles parlent des fois dans leur langue. Du coup, Mélanie, elle comprend pas. J'ai déjà une maman une fois qui est tombée de sa chaise. Parce qu'elle était, un petit peu dissipée, mais c'était super drôle. C'est un de mes meilleurs souvenirs. Et oui, sinon elles sont attentives et c'est la différence avec les enfants. C'est difficile pour un enfant de garder toute son attention, c'est normal, c'est un enfant, il est encore petit. Un adulte arrive à se concentrer plus longtemps, mais ça peut arriver qu'on se dissipe. Moi aussi des fois je me dissipe un petit peu.
Accepteriez-vous de nous inviter à assister à l'un de vos cours?
Oui, bien sûr, vous pouvez venir quand vous voulez. On fera un grand cours. Vous pouvez y assister avec plaisir, bien sûr. Je vous invite.
C'est quand vos vacances à vous dans l'année?
C'est la fin du mois de juin.
La rentrée, c'est en septembre.
C'est courageux. Nous tenions à vous féliciter et vous remercier pour ce que vous faites.
Au début, c'était un peu difficile, mais maintenant, je suis bien. En tout cas, c'est très bien. Et on dit merci à Mélanie, grâce à Mélanie, qu'aujourd'hui, on arrive à communiquer avec les gens dehors ou qu'on se retrouve dans une classe. Voilà.
Très bien.
Non, c'est ça bien. Y est, t'as fini?
Bravo.
Merci.
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 De rien.
Merci beaucoup à vous. Et bon, continuez.
Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 et c'est l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry.
Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
Quel est votre rôle au sein du Petit Quotidien?
Alors moi j'ai deux rôles. Mon premier c'est que je suis journaliste, ça veut dire que j'écris les articles. Et mon deuxième rôle c'est que je vais dans les classes pour parler de mon métier, pour parler du journal. Je fais ce qu'on appelle des ateliers d'éducation aux médias avec des enfants pour leur faire découvrir le métier de journaliste.
Où travaillez-vous?
Alors la rédaction de Playback, c'est le groupe de presse qui s'occupe de fabriquer le Petit Quotidien, ça se trouve à Paris, dans le 4e arrondissement, à côté de la place des Vosges. Il y a une place très connue, c'est là où habitait Victor Hugo, un auteur que vous avez peut-être étudié à l'école, donc c'est juste à côté.
Comment trouvez-vous les informations qui sont sur le journal?
Comment saviez-vous si une information est vraie?
Alors on l'a dit tout à l'heure, c'est très important dans notre journal, il faut que tout soit vrai, que tout soit vérifié. Alors pour chercher les informations, on va faire beaucoup d'interviews, on va interroger des personnes, des spécialistes des sujets sur lesquels on écrit pour leur poser des questions. Par exemple, quand on fait un sujet sur les animaux, on va interroger des scientifiques qui connaissent bien ces animaux. Et ainsi de suite, sur tous les sujets sur lesquels on travaille. Alors on dit souvent que pour être sûr qu'une info soit vraie, il faut plusieurs sources. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot, les sources, c'est l'origine de l'information. Ce sont les gens qui nous racontent l'information. Et alors nous, quand on écrit un article, on ne peut pas croire une seule personne, parce qu'il pourrait y avoir le risque qu'elle nous raconte quelque chose de faux. Alors souvent, on dit que pour être sûr que ce soit vrai, il faut au minimum 3 sources. Ça veut dire 3 personnes, 3 témoins ou 3 scientifiques qui me raconteraient la même chose. Si je trouve 3 personnes qui peuvent me certifier qu'une information est vraie, là, je commence à être sûr que c'est bon, qu'elle est vraie et que je peux la mettre dans le journal.
Est-ce que c'est vous qui prenez les photos et utilisez-vous un drone?
Alors non, c'est pas moi qui prends les photos, ce sont les photographes. C'est un vrai métier, hein. Moi je suis pas très fort pour prendre des photos, je suis plus fort pour écrire des articles. Donc je travaille avec des photographes qui vont faire des photos pour illustrer les articles. Parfois ils travaillent avec des drones, nous on n'en a pas à la rédaction. Parfois on va aussi prendre des photos qu'on trouve sur internet. Ça nous arrive de faire appel à des photographes qu'on trouve comme ça en ligne.
Comment sont faites les illustrations en quatrième page du journal ?
Alors, il y a plusieurs dessinateurs qui s'appellent Philippe, Nicolas et Gilbert qui, chaque jour, vont se succéder pour dessiner nos petites mascottes qui s'appellent Scoop et Tourbillon. Et alors, ils vont utiliser une tablette. En fait, c'est comme une tablette connectée. Ils ont un petit stylet, ils font leur dessin sur la tablette et le dessin apparaît sur l'ordinateur. Ça leur permet de corriger, de faire des ratures, de reprendre le dessin. Et après, ils vont aussi le colorier sur l'ordinateur. Ils vont remplir les parties du dessin grâce à une application. Et ça permet de faire des belles images.
Combien de temps faut-il pour écrire un numéro ?
Alors ça nous prend une journée entière. On commence vers 8h30-9h quand on cherche les idées de sujet. Et ça se termine vers 21h quand le journal est entièrement terminé, qu'on a mis les articles, les dessins, les photos sur ce qu'on appelle la maquette. La réalisation d'un journal, c'est une journée complète.
Quel outil vous utilisez pour faire le journal ?
Alors, déjà pour commencer, moi en tant que journaliste, j'utilise un outil incroyable, ça s'appelle le stylo. J'ai toujours un carnet et un stylo avec moi dans ma poche. Comme ça, ça me permet de noter des idées, de noter des informations, d'écrire des choses. Ça, c'est super important. Ensuite, mon article, je vais le taper sur mon ordinateur. Ça va me permettre d'avoir un beau texte bien écrit, aussi de m'aider à corriger mes fautes d'orthographe. Le dessinateur, il va aussi travailler sur l'ordinateur. Pareil pour faire ce qu'on appelle la maquette. Ça veut dire vraiment la forme du journal. Donc, on utilise beaucoup les ordinateurs et les tablettes. Et ensuite, pour l'imprimer, on va utiliser des énormes machines dans une imprimerie. Donc, ces très grosses machines qui vont nous permettre d'imprimer le journal.
Quelle sorte de papier utilisez-vous pour faire les journaux ?
Alors, vous avez peut-être vu, le papier, c'est pas comme celui des feuilles qu'on utilise à l'école, parce qu'on utilise un papier recyclé. C'est super important, comme on en imprime beaucoup. Vous savez, on fait 60 000 exemplaires du Petit Quotidien chaque jour. Alors, on utilise toujours un papier recyclé.
Est-ce qu'une autre prochaine fois, on pourra créer notre journal ?
Ah bah ce sera avec plaisir. Nous, à la rédaction, on reçoit très souvent des classes qui viennent nous rencontrer et on crée un journal avec elles. Et ça me permet aussi de leur faire visiter la rédaction, visiter nos bureaux. Donc peut-être que l'année prochaine, si vous vous inscrivez, vous pourrez venir faire un atelier de journalisme à la rédac.
Je trouve que dans le Petit Quotidien, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animaux. Et je me suis demandé quand cette décision avait été prise et pourquoi.
Alors nous, on fait très souvent quelque chose, c'est qu'il y a souvent des enfants qui viennent visiter la rédaction, soit avec leurs parents, soit avec leur classe. Et quand on a nos lecteurs qui sont là, on leur demande leur avis. Souvent, dans les conférences de rédaction, on fait participer les enfants. Donc on propose les idées de sujets qu'on a eues dans le journal du jour, et c'est nos lecteurs qui choisissent leurs préférés. Et très souvent, ils choisissent les sujets sur les animaux. Donc ça, c'est super important pour nous, en tout cas, de demander l'avis des enfants, que ce soit nos lecteurs qui disent ce qu'ils ont envie de trouver dans le journal.
Quand on va faire notre quotidien avec toi, on pourra aussi t'aider à trouver des informations ?
Ouais, absolument. Si vous venez faire le journal, c'est vous qui choisirez les sujets dont on parlera dans le journal. Je pourrais vous proposer des idées, mais à chaque fois, c'est les enfants qui viennent qui choisissent les sujets du journal.
Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
Chers téléspectateurs, nous sommes le 5 septembre 1960 à Rome. Quelle ambiance ! 16 000 personnes sont venues assister à cette finale de boxe des Jeux Olympiques en catégorie mi-lourd. Sont opposés l'Américain Cassius Clay, 18 ans, 100 victoires pour 108 combats, contre l'incroyable Polonais Petrikovski. Et c'est parti, le match commence.
Premier round, le jeune Clay cherche à maintenir la distance par des directs du rouge. Les coups ne suffisent pas et manquent d'efficacité. Deuxième round, Petrikovski est plus féroce et lui envoie deux directs massifs, mais sans effet. Le score est serré, la finale est incertaine. Début du troisième round, Clay attaque pour un coup donné par Petrikovski. Cassius lui en donne trois. Vous entendez les cris du public ?
La cloche vient de sonner, la fin du match. Les juges ont délibéré et annoncent le verdict. Mais quelle main va-t-il soulever? Quelle tension! Et c'est celle de Cassius Clay! Il est champion!
Vole comme un papillon, pique comme une abeille. Telle est l'une des phrases prononcées par Mohamed Ali. Sacré champion du monde et une fois médaille d'or aux Jeux Olympiques, Mohamed Ali est devenu le plus grand boxeur de tous les temps. Mais le savais-tu? Il est également connu pour des combats menés hors du ring. Il s'est battu pour les droits civiques des hommes noirs américains et contre la guerre. Voici l'odyssée de Mohamed Ali, la légende de la boxe.
Arrêtons-nous un moment. Cassius Clay vit dans une époque sombre des États-Unis. En 1950, purée de pommes de terre, crois-moi, ce n'était pas facile tous les jours quand tu étais une personne noire. En ce temps-là, les blancs et les noirs n'ont pas les mêmes droits, ne fréquentent pas les mêmes endroits, pas d'école ensemble, pas de théâtre, pas de restaurant aussi. Les noirs subissent du racisme, je sais, c'est vraiment injuste.
Rembobinons l'histoire. S'il y a eu du racisme envers les noirs, il faut remonter au début de l'esclavage. Mais au fait, qu'est-ce que c'est que l'esclavage ? Accroche-toi bien.
Entre le 16e et le 19e siècle, des navires européens chargés de marchandises partent pour l'Afrique. Et là, quelle horreur ! Ils vendent leurs marchandises contre des êtres humains. Puis ces hommes sont envoyés en Amérique où ils deviennent des esclaves et travaillent dans des plantations de coton. Les conditions de vie sont terribles. Je sais, c'est atroce.
Nous sommes maintenant en 1861. Une guerre civile éclate aux États-Unis. C'est la guerre de sécession. Les États du Nord s'opposent aux États du Sud. Le Nord réclame l'abolition de l'esclavage. Le Nord gagne. Vive le Nord!
Et depuis le 18 décembre 1865, l'esclavage est interdit aux États-Unis. Merci Abraham Lincoln. Mais est-ce pour autant que les blancs et les noirs vivent ensemble et en toute égalité?
Revenons à l'Eden Box. Croyez-vous au destin? En 1954, le jeune Cassius a 12 ans. Ce jour-là, il pleut des cordes. Quel temps chiant! Oui, car s'il n'y avait pas eu cette averse, rien de ce qui va être le succès de Mohamed Ali ne serait arrivé. Bref. Deux gamins se précipitent vers le premier policier pour expliquer leur malheur. Ce monsieur s'appelle Joe Martin. En plus d'être policier, il est aussi entraîneur de boxe. Les deux garçons sont en colère.
On vient de se faire voler notre vélo !
Punaise de lit ! Joe Martin vend ce garçon des qualités de boxeur et lui demande.
Et que comptes-tu faire ? Je vais le retrouver, ce voleur, et lui botter les fesses ! Avant de lui botter les fesses, tu devrais apprendre à te battre. Mais vous êtes blanc, et les noirs et les blancs ne se mélangent pas. Mon garçon, dans ma salle de sport, on oublie la couleur. Je te vois demain à la même heure.
Et c'est ainsi que Cassius va découvrir le monde de la boxe.
Le jour suivant, le garçon se rend à la salle de boxe. Son cœur bat la chamade et n'en croit pas ses yeux quand il aperçoit que des blancs et des noirs s'entraînent ensemble. Cassius en veut. Très vite, il maîtrise quelques gestes. Jab, hook, cross. Sur le ring, les doutes disparaissent. Il veut être le meilleur du monde. Pour cela, Cassius Clay a du pain sur la planche. Des gants sur le ring. Tous les jours, il se lève à 5h du matin pour courir. Finit les bons plats et les sorties. Puis il enchaîne les matchs, les victoires. Il a déjà l'âme d'un grand boxeur.
Après un travail acharné, les efforts payent car le voilà aux Jeux Olympiques de Rome de 1960. Il a 18 ans, il a moins d'expérience et personne n'y croit. Mais contre toute attente, Cassius remporte le titre olympique. Quelle fierté !
Il veut montrer que noir rime avec victoire.
Après la victoire, Cassius pensait que la médaille lui aurait permis de remonter dans les cimes des Blancs. Mais cela ne suffit pas. Un soir, il se rend dans une cafétéria de Blancs. Il rentre dans le restaurant et reçoit un jab en plein cœur. Le serveur lui dit
« On ne sert pas les Noirs !»
Cassius a la rage.
À quoi sert cette médaille aux yeux des Blancs si rien ne change ?
Ce soir-là, on n'a jamais su si Cassius avait jeté sa médaille dans la rivière par colère ou s'il l'avait égarée.
À cette période, Cassius rencontre Elijah Muhammad et Malcolm X, des défenseurs de la liberté des hommes noirs. Touché par le racisme et ses injustices, Cassius se convertit à l'islam et change de nom. Clay était le nom des esclavagistes. Il voit en ce changement de nom une séparation entre lui et l'Amérique raciste. Il devient Muhammad Ali, celui qui est aimé de Dieu. Ce changement de nom n'est pas accepté par les Blancs. Pour eux, un noir musulman est un noir dangereux.
Mais la lutte n'est pas terminée. Muhammad Ali est un combattant sur le ring et pour les droits des Noirs. Le combat pour la liberté des Noirs ne s'est pas arrêté là. Bien des hommes et des femmes noires se sont aussi battus. Martin Luther King, Rosa Parks, Ruby Bridge et bien d'autres.
À 22 ans, Muhammad Ali participe au championnat du monde de poids lourd, la catégorie la plus respectée. Il affronte le champion du monde en titre, Sonny Liston. Muhammad Ali le nargue.
Gros ours, je viens jouer.
Le match est spectaculaire et il devient champion du monde.
Le 22 novembre 1965, Muhammad Ali affronte Floyd Patterson, un chrétien qui ne supporte pas qu'un musulman soit champion du monde. Il refuse de l'appeler Muhammad. Alors Muhammad Ali devient agressif et le combat est sanglant. À la suite du match, il perd ses fans et sa gloire.
Ensuite, en 1967, les États-Unis s'engagent dans une guerre coloniale au Vietnam. Muhammad Ali doit y aller, mais conteste. Il refuse de combattre des personnes qui ne lui ont rien fait aux côtés des personnes qui lui ont fait quelque chose. Il n'a plus le droit de boxer et on lui retire son titre de champion du monde.
L'Amérique se divise. Pour une partie, Muhammad Ali est un traître. Pour l'autre, il est une figure de la paix. Le 8 mars 1971, la sanction est levée. Muhammad Ali remonte sur le ring et affronte le nouveau champion de poids lourd, Joe Frazier. C'est le combat du siècle. Mais quelle catastrophe! Muhammad Ali n'est plus aussi rapide et ses jambes sont instables. Il encaisse les coups et tombe KO. C'est sa première défaite.
Les matchs qui suivent deviennent difficiles et il perd de plus en plus. Est-ce que c'est la fin? Plus tard, on apprend que Muhammad Ali a la maladie du Parkinson. Cette maladie provoque des tremblements dans le corps. Il ne boxera plus. Le 19 juillet 1996, Muhammad Ali participe à l'ouverture des Jeux Olympiques d'Atlanta pour allumer la flamme olympique.
Muhammad Ali s'est éteint le 3 juin 2016, à 74 ans. Il reste un symbole de la boxe et une figure de la lutte contre la ségrégation. Muhammad Ali avait dit un jour
« Vous verrez, on parlera de moi dans des livres !»
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bonjour les enfants. Je suis Baptiste, je suis médiateur au service des archives municipales de la ville d'Ivry-sur-Seine. Et aujourd'hui, je vais vous présenter notre exposition qui parle de toute l'histoire d'Ivry, de la préhistoire jusqu'au début du XXe siècle. Et ensuite, je vous présenterai notre travail, les documents qu'on conserve et je répondrai à vos questions.
Il y a des élèves qui viennent d'Einstein et il y a des élèves qui viennent de Joliot. On est mélangés. On est des élèves à peu près de CE2 jusqu'à CM2. On vient pour regarder votre exposition.
On y va ? Alors, bienvenue au cabinet de curiosité. C'est un ancien abri anti-aérien, c'est-à-dire un endroit qui a été aménagé un petit peu avant la Deuxième Guerre mondiale pour protéger le personnel communal, les gens qui travaillent à la mairie, d'éventuels bombardements. Et nous, les archives municipales, on s'est installé ici et on a transformé cet endroit en un espace d'exposition. L'année dernière, c'était sur l'industrialisation de la ville d'Ivry. Et là, cette année, on a fait une exposition sur un thème un peu plus large, puisqu'elle parle de toute l'histoire d'Ivry. Et elle commence par les premières occupations humaines à Ivry, au temps du néolithique. Vous pouvez le voir, et pour les auditeurs et les auditrices, ils pourront essayer de l'entendre. On a mis une photo d'une fouille archéologique qui a eu lieu à Ivry entre 2013 et 2023 et qui a découvert un village préhistorique qui était à Ivry il y a 6000 ans. C'est donc dans l'actuel quartier d'Ivry-Port qu'il y a eu les premiers habitants et ils avaient construit un village qui a existé pendant 500 ans. Et ce qui est assez remarquable, d'avoir des traces archéologiques d'un village qui s'est construit au fil de 5 siècles à cette période qui est assez ancienne. C'est la période du néolithique, et à ce moment-là, en Europe et un peu partout, la plupart des groupes humains dans le monde adoptent l'élevage et l'agriculture comme moyen de subsistance et ils deviennent sédentaires. C'est une transition très importante dans l'histoire de l'humanité.
Des archivistes ont trouvé une ville de la préhistoire, mais la ville, elle était comment ?
C'est pas les archivistes qui les ont trouvés, c'est les archéologues. La discipline qui étudie les périodes les plus anciennes, c'est l'archéologie. Et alors, ils ont pas trouvé un village construit, ils ont trouvé des ruines, ils ont trouvé des morceaux, ils ont trouvé des trous qu'ils ont analysés comme étant des trous qui ont été créés par des piliers en bois. Et ils ont pu, à partir de là, analyser tout ce qu'ils avaient trouvé et reconstituer à peu près les maisons qu'avaient ces hommes et ces femmes à cette époque-là. C'était des maisons sur pilotis, en hauteur, avec, ça veut dire qu'il y avait un petit étage. Elles étaient en bois, avec un grand toit, et ils utilisaient aussi une matière qui s'appelle la terre crue pour isoler ces maisons. On est au tout début du Moyen-Âge et Ivry apparaît dans une charte du roi des Francs en 937. Ensuite, en 1158, on a la trace, 12e siècle, la trace de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul à Ivry qui est toujours là. C'est le bâtiment le plus ancien encore présent aujourd'hui dans la ville. En se baissant un peu, on peut voir une carte d'Ivry. Elle a été faite quand celle-là ? Je l'oublie. En 1740, donc au 18e siècle. Mais elle nous révèle bien à quoi a pu ressembler Ivry pendant la grande majorité de son existence. C'est-à-dire un village avec une activité principalement agricole. Vous voyez, sur la plaine, il y a des champs. On cultivait, c'était des agriculteurs qui cultivaient des céréales, qui faisaient du maraîchage, des légumes, des fruits. Et il y a aussi une activité importante qui est l'exploitation de pierres. On creusait des carrières dans le sol et on allait chercher des pierres et c'était une activité assez importante à Ivry.
Depuis quand Ivry existe-t-il ?
Ivry, on a la première trace, le nom Ivry. Il est écrit dans une charte, un document du tout début du Moyen-Âge en 937. On est en 2026 et c'était en 937. Et c'est un document où le roi des Francs, à l'époque c'est le peuple franc qui occupe la région parisienne, le roi, il concède des terres à l'évêque de Paris. Et l'évêque, c'est le chef de l'église. Et en gros, il lui dit, tu vas avoir des vignes, un champ de céréales et une maison. Il se trouve à Ivry.
On sait ce que ça veut dire, Ivry ?
On ne le sait pas exactement, mais on pense, et c'est le plus probable, que ça vienne du nom de la plante livrée, qui était une plante toxique pour les hommes et pour le bétail, et qui devait pousser, devait y en avoir beaucoup ici. Il y a une expression, je crois, qui c'est séparer le bon grain de l'ivraie.
Et de l'autre côté de la Seine, là, c'est...
C'est Charenton. C'était un peu, oui, c'était un peu plus construit, en tout cas. Il y avait, là, c'est des parcelles de domaines seigneuriaux et de châteaux. Et quand je vous disais que l'activité d'extraction de pierre, elle était importante, c'est qu'on a retrouvé ce document qui est un registre comptable. C'est des cahiers. Quand on construit un bâtiment ou on a une entreprise, on fait un cahier, on dit bah voilà, ça m'a coûté tant, j'ai acheté ça m'a coûté tant, etc., etc. Et ce registre comptable, c'est pour la construction d'une cathédrale dans une ville qui s'appelle Sens, qui est un peu au sud de Paris. Pour construire la cathédrale, il nous indique qu'un certain Jean d'Espagny est allé à Ivry en bateau et a acheté des pierres d'Ivry, qui sont aujourd'hui dans l'édifice de Sens. En plus, ces pierres étaient vendues, où ça, c'est indiqué sur le registre, au port à l'anglais. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les enfants, le port à l'anglais. C'est entre Vitry et Ivry. Et c'était déjà un port commerçant au Moyen-Âge. Et on peut là voir une scène de baignade qui date du XVIIe siècle. Là, sur la photo, vous pouvez voir le plus ancien document que l'on conserve. C'est un registre de baptême, de mariage et de sépulture qui date de 1601. Et donc, c'était les registres paroissiaux. C'était l'Église qui s'occupait de faire les ancêtres des états civils. Et c'est devenu ensuite une compétence municipale, ce qu'on appelle les états civils, que l'on conserve aussi. Et à la Révolution française est créée l'Assemblée municipale d'Ivry avec ses délibérations et les registres des débats du conseil municipal que l'on conserve depuis et qui nous permettent de raconter l'histoire d'Ivry. Quand on voit la ville d'aujourd'hui, on a un peu de mal à s'imaginer qu'il y avait des jolis châteaux. Et pourtant, c'était bien le cas. Ivry était assez connu pour ses châteaux et son paysage pittoresque.
Le château, il était sur l'actuel parc Thorez ?
Non. À l'angle de la rue Raspail et Saint-Just. Et le jardin, il montait jusqu'à Marat.
Oula !
Ouais. Dans ce château, précisément, a habité une dame que vous connaissez peut-être pas, les enfants, mais qui s'appelle la Duchesse d'Orléans. Et vous voyez, c'est une princesse royale qui a été la mère du dernier roi de France en exercice, Louis-Philippe. Et elle habitait à Ivry, dans le Saint-Château. Et nous, on n'a pas la gravure, mais il y a une gravure d'elle dans son jardin qui est très très belle. Et ensuite, à sa mort, elle a demandé à ce que le château serve pour devenir une école pour jeunes filles. Une partie du château de la Duchesse a servi à fonder cette école. Mais après, l'école, elle n'a pas duré très longtemps et le château, il a été vendu. On ne connaît pas très bien cette histoire, mais on sait qu'il a été vendu en plusieurs morceaux. Ivry, il y a à peu près 1000 habitants en 1789 à la Révolution française. Et il y en a plus de 30 000 à la fin du 19e siècle. Ça veut dire une grosse augmentation en quelques décennies. Comme il y a beaucoup, il y a de plus en plus de monde, il faut, en tout cas, il faut construire plein de maisons. Et le château qui prenait beaucoup de place, on va le détruire, on va le séparer en plusieurs lots, quadriller le terrain, et on va construire des maisons dessus pour loger un maximum de personnes. Là, dans cette vitrine, on a mis une lettre du préfet de la Seine, le préfet qui a été nommé par le gouvernement pour encadrer administrativement les communes. Donc il y a le préfet et après il y a le maire. Et là, le préfet, il envoie une lettre au maire d'Ivry en 1824 et il lui annonce que les mariniers au bord de la Seine lui avaient demandé d'organiser des joutes sur la Seine. C'était une fête très populaire. Et cette lettre, dans cette lettre, le préfet dit qu'il n'autorise pas la joute parce que là, c'est trop dangereux, qu'il y aura trop de monde, que le port n'est pas assez aménagé, que c'est mal organisé. Sans cette lettre, on en a plusieurs après, parce que chaque année, les mariniers, ils demandent l'autorisation d'organiser cette fête et ils les autorisent après. Mais sans ces lettres, on ne saurait pas que cette joute a existé. Hein. On n'a aucun document, aucune carte postale, aucune photo, aucun dessin pour l'instant qui nous représente ces joutes qui avaient lieu tous les ans à Ivry. C'est toujours le cas aujourd'hui, hein. Si vous voulez faire un gros événement, vous demandez à la préfecture qui vous donne l'autorisation. Donc je disais, à la Révolution française, il y a à peu près 1000 habitants à Ivry, et au cours du 19e siècle, la population va augmenter, le nombre d'habitants va augmenter, parce que va y avoir une transformation majeure dans la ville d'Ivry. C'est ce qu'on appelle l'industrialisation de la commune. Et ce qui était un village agricole que je vous décrivais tout à l'heure devient une ville industrielle. Et là, on a exposé les forges d'Ivry. Et vous pouvez voir sur cette gravure la place qu'elle prenait dans la ville. Elle pénètre dans les terres. Et c'est une nouvelle population qui, avant l'industrialisation, n'existait pas, en tout cas pas dans ses proportions. Et vous en avez une représentation là, c'est les travailleurs des forges qui travaillaient là. Et cette population va vivre dans des conditions difficiles, ils vont être assez pauvres pendant assez longtemps. Et c'est à ce moment-là que différentes personnes, différents mouvements vont réfléchir à comment résorber les inégalités qui étaient très fortes avant et améliorer la vie des ouvriers et des ouvrières.
Les archives.
Notre métier, c'est de récupérer et conserver tous les documents qui ont un intérêt historique et qui concernent la ville d'Ivry. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des documents qui sont produits principalement par la mairie. La mairie, elle produit plein de différents documents, des registres, des photos, des dossiers de personnel, vous avez pu voir pendant l'exposition des plans, que sais-je encore, des dossiers de construction pour les écoles, etc. Tout ça, on est chargé de les conserver et de faire en sorte qu'ils soient ensuite consultables pour les personnes qui en auraient besoin quand ils ont droit de les consulter, parce qu'on ne peut pas consulter tous les documents tout le temps. Et donc notre mission, c'est de les conserver, de les communiquer et de les valoriser, c'est-à-dire de faire connaître l'histoire d'Ivry, de faire des expositions, faire des ateliers avec les classes, les enfants, les centres de loisirs comme vous, pour vous transmettre l'histoire et la mémoire de la ville d'Ivry.
Qu'est-ce qu'il y a aux archives ?
Alors, aux archives, on a toutes sortes de documents qui représentent ou qui ont été produits dans le passé d'Ivry-sur-Seine. On a par exemple des photos, on a par exemple des plans de la ville, des plans d'immeubles, des plans d'entreprise. On a des cartes postales. Là, ce que vous voyez là, c'est des cartes postales. Les cartes postales, c'était un moyen de communication très 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 important avant. On a des dossiers très ennuyeux, mais qui sont quand même très 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 importants, que je vous ai montré aussi tout à l'heure. C'est les registres de délibération du conseil municipal. Quand le maire se réunit avec tous les élus, ils discutent, ils débattent. Tout ça, c'est retranscrit dans un registre. On a les registres des actes de naissance, de mariage et de décès. Si toi, tu es né à Ivry, il y a de fortes chances que dans quelques années, on conserve ton acte de naissance qui prouve que tu es né à Ivry. Voilà. On a aussi des objets. On a différents objets qui sont conservés ici. On a des cassettes, des DVD, des livres, des catalogues, plein de choses.
Quel est le métier d'archiviste ?
Parce que moi, je suis pas archiviste. Je suis historien et médiateur, mais c'est pas grave, je travaille avec mes collègues archivistes. Leur métier, c'est de conserver tous les documents dont je viens de vous parler, les documents qui ont un intérêt historique pour la ville d'Ivry. C'est de les collecter, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils partent pas dans la nature. De les conserver dans des conditions que le document ne s'abîme pas dans le temps, que la feuille de papier se déchire pas, que ça soit toujours lisible dans 100 ans. C'est ça la conservation d'archives, et de pouvoir les communiquer pour celles et ceux qui en ont besoin. Je vais te donner un exemple. Il y a beaucoup, je disais qu'on conservait les actes de naissance de beaucoup de personnes. Sur un acte de naissance, il y a écrit: quand est-ce que la personne est née, où ça, à quelle heure, qui sont ses parents et où est-ce qu'ils habitaient. Ça fait plein d'informations sur le passé des gens. Et certaines personnes, elles font l'histoire de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents, de leur famille, et elles nous demandent de consulter ce genre de documents pour reconstituer un arbre généalogique.
Quel âge on doit avoir pour devenir archiviste ?
Il n'y a pas d'âge précis, mais il faut être adulte. Mais si on suit le parcours de formation, on commence aux alentours de entre 22 et 25 ans.
Où est-ce que vous conservez les archives ?
On les conserve dans ce qu'on appelle les magasins. Et ce sont des pièces dans lesquelles il y a des grandes armoires et des grandes étagères où on stocke des centaines de cartons. Et ces pièces-là, il est très important qu'elles soient dans l'obscurité pour pas que la lumière abîme les documents, et qu'elles soient dans une température ni trop froide ni trop chaude, mais surtout constante, qu'il n'y ait pas de grosses variations de température. Donc c'est pour ça que c'est des pièces qui sont bien isolées. Au cas où, enfin, malheureusement, il fait de plus en plus chaud l'été ici, nos archives, nos documents, ils prennent pas trop la chaleur. Oui.
Est-ce qu'il y a des personnes qui ramènent des documents aux archives ?
Oui, il y a des personnes qui viennent nous voir assez régulièrement et qui nous proposent des documents, des photos de famille, qui nous disent j'ai retrouvé ça dans les affaires de mes parents. Souvent, malheureusement, c'est après le décès d'un parent. Et on fait le tri dans ses affaires et on trouve plein de documents et on se dit ça, je vais pas les garder. Et ils viennent nous les proposer, savoir si ça nous intéresse.
Depuis quand les archives existent ?
Les archives en tant que documents, ça existe depuis très très longtemps. C'est tous les documents qui sont produits dans le passé et qu'on conserve. Mais le service des archives municipales d'Evry, il existe depuis 1981. Mais avant ça, il y avait des documents d'archives qui étaient conservés sans qu'ils le soient officiellement. C'est à partir de 1981 qu'il y a un service qui a été créé avec des gens qui ont été embauchés pour s'en occuper.
Sur Radio Libertaire 89.4 et c'est l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry, qui termine sa dernière émission avec de beaux inédits aujourd'hui. Je voulais remercier les presque 900 enfants qui ont participé à la radio cette année, leurs professeurs et tous les adultes qui ont permis ces productions, et en particulier Anne-Charlotte Ambrosi, Marianne Guillemot, les deux coordonnatrices REP d'Ivry, toute l'équipe de la circonscription et Irène Berelovitch, journaliste et documentariste. Bonnes vacances!
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand, avec à la technique Flo Descailloux. Nous recevons Émilie Lanaise pour Folcoche, qui c'est un récit, c'est une rencontre-enquête. Folcoche, ça vient de paraître aux éditions Grasset. C'est un texte, c'est une rencontre, j'allais dire, Émilie Lanaise. Bonjour.
Bonjour.
C'est vrai que c'est une rencontre avec une femme. Qu'est-ce qui se cache derrière un personnage de roman? On est toujours, c'est fou, ce surnom de Folcoche, qui désigne une mère indigne, une mère vraiment qui a tous les défauts. Fameux roman de Vipère au poing d'Hervé Bazin. Finalement, cette création littéraire a effacé cette femme que vous remettez. Enfin, j'ai beaucoup aimé votre livre. Pour cette rencontre avec cette femme qui est devenue une femme de l'ombre, tout en étant malheureusement dans la lumière, mais elle était dans la lumière pour ses mauvais côtés. Alors j'aimerais que vous nous racontiez le point de départ de ce livre, c'est un peu la question bateau, mais le point de départ de ce livre, Émilie Lanaise, quelle a été vraiment votre première rencontre avec cette femme qui s'appelait Paul Guillotot et qui était la mère d'Hervé Bazin?
Ma première rencontre, c'est que quand j'ai eu cette idée... un peu ce gros nu. Enfin, je ne sais pas trop vous dire comment j'ai eu cette idée de me demander, finalement, cette femme, Folcoche, passe dans tous les esprits pour être l'incarnation, le monstre absolu, la mauvaise mère par définition. Et j'ai eu un peu envie de me dire, mais c'était qui en vrai la mère d'Hervé Bazin? Qui était Paul Guillotot? C'était vraiment ce monstre? Si elle était ce monstre, pourquoi? Donc, au départ, une question assez basique. Et ma première rencontre, puisque c'est ce que vous me demandez, c'est assez vite. Je suis allée visiter la maison où ils avaient habité, une espèce de petit château en Anjou, qui est aujourd'hui transformé en maison d'écrivain, un musée, qui est habité par un monsieur très charmant, et qui lui connaît très bien l'histoire de la famille, puisqu'il y a eu très peu de propriétaires de cette maison. Et en me raccompagnant, après avoir visité le musée, le musée reprend l'histoire, Folcoche le monstre. Hein. En me raccompagnant, il y a une pelouse un peu devant la maison. et en me raccompagnant, il me dit, regardez, c'est ici que Folcoche, il l'appelait Folcoche aussi, c'est ici que Folcoche jouait au tennis. Comme elle n'avait pas assez d'argent pour pouvoir construire un court, elle avait fait peindre à la chaux des lignes blanches sur la pelouse, et je m'étais dit, tu vois, c'est marrant, Folcoche qui joue au tennis, je trouve que ça allait pas du tout avec ce que j'avais à l'esprit, parce que...
C'était par accord.
C'était par accord. Il précise, elle joue au tennis, elle avait appris en Chine. En fait, il y avait deux informations que je trouvais intrigantes. Et donc, je me suis dit, il y a quand même quelque chose à chercher. Elle aurait donc eu une histoire un peu plus animée que ce qu'on pense. Et par différents contacts et rendez-vous, j'ai été amenée à lire et à recevoir en prêt très aimable toute la correspondance familiale, parce que toute cette affaire se passe entre 1920 et 1930, une époque, vous l'ignorez pas, où tout le monde s'écrit toute la journée, très longues lettres. Ouais. Et ça, c'est quand même...
Alors, il faut dire pour nos auditeurs, donc Hervé Bazin est né en 17 avril 1911... Il va mourir en 17 février, d'ailleurs, 1996. Alors, c'est fou, parce que c'est vraiment un personnage de roman. C'est-à-dire que vous montrez que le personnage de roman de Folcoche, il y a une femme derrière, et vous montrez que le créateur du personnage de roman, c'est lui le personnage de roman, c'est lui la folie douce, c'est pas douce, hein, c'est un sacré coup de bambou du côté d'Hervé Bazin. Alors je crois que vous le citez, Hervé Bazin, je pense. Je pensais que ça allait être tiré à 500 exemplaires. En fait, je l'ai écrit pour enquiquiner ma famille. Donc il y a eu des allusions tout le temps. Elle a été très choquée, mais comme ce sont de bons bourgeois...